ce qui nous attendait au village. Le 18 avril, nous descendions de carrosse devant le perron de la maison de Petrovskoye. Au départ de Moscou, papa était profondément pensif. Et quand Volodia lui demanda « Est-ce maman qui est malade ?» il le regarda longuement et tristement inclina la tête. Dans le cours du voyage, pourtant, il se calma visiblement. Mais au fur et à mesure qu'on s'approchait de la maison, sa figure prenait une expression de plus en plus triste. Et quand, sortant de voiture, il demanda, suffoqué par l'émotion, « Où est Natalia ?» sa voix n'était pas ferme et ses yeux étaient remplis de larmes. Le bon Foka nous jeta un coup d'œil en dessous et, ouvrant la porte du vestibule, se détourna pour répondre « C'est le 6e jour qu'elle ne daigne pas sortir de la chambre à coucher. » Milka, qui n'avait cessé de gémir depuis le jour où sa maîtresse était tombée malade, comme je l'appris ensuite, se jeta avec joie au-devant de papa, sauta sur lui, jappant et lui léchant les mains. Mais il la repoussa et passa au salon, puis, de là, dans le fumoir, dont une porte donnait directement dans la chambre à coucher. Plus il s'approchait de cette chambre, plus ses mouvements indiquaient son trouble intérieur. Entrant dans le fumoir, il marcha sur la pointe des pieds, respira à peine et fit le signe de la croix avant de toucher à la serrure de la porte close. En ce moment, accourait du corridor Mimi, non peignée, et le visage en larmes. « Oh, Pyotr Alexandrovitch !» dit-elle en chuchotant, avec l'expression d'une vraie désolation. Et remarquant que papa s'apprêtait à ouvrir la porte, elle dit bien vite « On ne peut pas passer par ici, l'entrée est par l'autre porte. » Oh, comme tous ces menus faits ajoutaient encore à ma douleur. Nous entrâmes dans la chambre des bonnes. Dans le couloir vint au-devant de nous Hakim, le sot qui nous amusait tant avec ses étranges grimaces. Mais en ce moment, non seulement il ne me parut pas ridicule, mais rien ne me frappa autant que la vue de sa figure indifférente et morne. Dans la chambre des bonnes, deux jeunes filles, occupées à je ne sais quel ouvrage, se levèrent et nous saluèrent avec une expression si triste que je commençais à avoir horriblement peur. Papa traversa la chambre de Mimi, ouvrit la porte de la chambre à coucher et nous entrâmes. À droite de la porte, deux fenêtres voilées par de grands châles. Auprès d'une de ces fenêtres était assise Natalia Savichna, des lunettes sur le nez. Elle tricotait un bas. Elle ne nous embrassa pas comme elle en avait l'habitude. Elle se leva seulement un peu, nous regarda sous ses lunettes et se mit à pleurer à chaudes larmes. Ce qui m'impressionnait davantage, c'est que chacun, en nous voyant, se prenait à pleurer. Ah, ce n'était pas comme cela que nous avions l'habitude d'être accueillis. À gauche de la porte se trouvait un paravent, et derrière le paravent, le lit, une petite table, une armoire couverte de médicaments et un grand fauteuil dans lequel sommeillait le docteur. Près de lui, se tenant debout, une jeune fille très blonde, d'une beauté remarquable, vêtue d'un peignoir blanc. Les manches retroussées, elle maintenait une compresse glacée sur la tête de maman, que je ne pouvais apercevoir. Cette fille était la belle Flamande dont maman parlait dans sa lettre et qui devait jouer par la suite un rôle si important dans notre vie de famille. Aussitôt que nous fûmes entrés, elle retira une des mains qu'elle appuyait sur la tête de maman et arrangea son corsage en désordre. Puis elle chuchota. « Elle a le délire !» J'étais terriblement angoissée en ce moment. Néanmoins, j'observais jusqu'au moindre détail. Dans la chambre, il faisait sombre, un peu chaud, et l'on sentait des parfums mélangés de menthe, d'eau de Cologne, de camomille, de gouttes de Hoffmann. Cette dernière odeur me frappa à ce point que, non seulement quand j'en entends parler, mais aussitôt que je m'en souviens, mon imagination me reporte dans cette chambre, et me permet de retrouver jusqu'au moindre détail de ces terribles instants. Les yeux de maman étaient ouverts, mais elle ne voyait rien. Non, je n'oublierai jamais cet horrible regard. Il exprimait tant de souffrance. Bientôt, on nous éloigna tous. Quand, plus tard, je questionnais Natalia Savichna sur les derniers moments de maman, voici ce qu'elle me raconta. Lorsqu'on vous a emmené de la chambre, elle s'agita encore longtemps, la colombe, comme si quelque chose la suffoquait. Puis, elle laissa glisser sa tête sur l'oreiller, s'assoupit et respira paisiblement. On eût dit alors un ange du ciel. Je sortis un instant pour voir pourquoi on n'apportait pas sa potion. Et quand une seconde après, je revins auprès d'elle, la chérie, elle se prit à rejeter tout ce qui la couvrait, appelant à elle votre père. Il se pencha alors vers elle. Mais elle n'a plus de force déjà pour dire ce qu'elle veut. Dès qu'elle ouvre les lèvres, elle recommence à haleter. Mon Dieu, Seigneur, les enfants !» Je voulus aller vous chercher, mais Ivan Vassilitch l'en empêcha, me disant que ça l'agiterait davantage encore, qu'il valait mieux ne pas vous faire voir. Elle ne fit plus ensuite que soulever et abaisser sa main. Et que voulait-elle dire par ce geste? Elle voulait vous bénir de loin, certainement. Mais comme cela se voit, le bon Dieu n'a pas voulu qu'elle jetât un dernier coup d'œil sur ses petits-enfants. Enfin, elle se releva encore une fois, la colombe, joignit comme cela les mains, rouvrit encore la bouche et, d'une voix que je ne peux retrouver, « Mère de Dieu, protège-les, » fit-elle. En ce moment, les douleurs se fixèrent au cœur. On voyait à ses yeux qu'elle souffrait beaucoup, la douce, la pauvre chérie. Elle tomba sur les oreillers, serra les draps entre ses dents, et les larmes, mon petit père, coulent et coulent. Et puis après, demandai-je. Mais Natalia Savichna était incapable de dire un mot. Elle se détourna et commença à pleurer amèrement. Maman avait expiré dans des douleurs effroyables.